Deutsche Welle, Économie et Développement.
Ils sont partout, les métaux rares dans nos smartphones, mais aussi dans les panneaux solaires ou les véhicules électriques. Indispensables à la transition énergétique et numérique, leur coût est pourtant très lourd. C'est ce que révèle le journaliste spécialiste des matières premières Guillaume Pitron dans son dernier ouvrage. Nous en discuterons avec lui. La noix de cola pourra-t-elle un jour rivaliser avec le cacao et le café en Côte d'Ivoire? La production atteint 100 000 tonnes, loin des 2 millions de tonnes de cacao, mais elle fait vivre des milliers de familles, en particulier à Niama, dans la banlieue d'Abidjan. Julien Daillé, notre correspondant, s'est rendu dans cette ville surnommée la capitale de la cola. De nouveaux débouchés d'exportation sont possibles vers la sous-région et les professionnels demandent une organisation de la filière par le gouvernement.
Vous constaterez que notre commune est en grande majorité constituée de grands magasins de cola. C'est conditionné à Niama. Et c'est à partir d'Niama, la Côte d'Ivoire exporte la cola. C'est ce qui fait d'Niama la capitale de la cola.
Niama, capitale de la cola, est le premier producteur de la sous-région. En dépit de cette couronne, la filière ivoirienne peine à prendre son envol. Le contraste entre les capacités de production et la santé de la filière intrigue. Yeo Pepe, responsable des affaires économiques à la mairie d'Niama, s'étonne que la filière ne soit pas promue.
La cola en Côte d'Ivoire, c'est un secteur qu'on va dire informel parce que la filière n'est pas encore bien organisée. L'État n'a pas encore développé le secteur de la filière cola. Et donc, ce sont des particuliers qui exercent dans le domaine, qui se contentent seulement de faire la collecte et de revendre à ces grossistes qui vont à l'extérieur, surtout les pays voisins.
Ici, les acteurs de la cola évoquent les multiples problèmes qui plombent son décollage. Sur le plan des plantations, le verger est vieillissant. À cela, il faut ajouter l'inorganisation du secteur et le racket lors du transport. Tous ces maux constituent un obstacle majeur à l'émergence de cette filière. Mais aussi la valse des prix, qui ne répond à aucun barème standard, complique davantage la situation. Doumbia Soumaïla, président local de la filière, nous explique.
Bon, pour le moment, c'est le puce qui fixe le prix de la cola. En Niama, le kilo est vendu à 500 francs. Matin, comme ça, on paye à 500. Le soir, si tu ne vois pas acheter, il fait venir payer ça à 300 ou 400. C'est ça le problème de cola. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de prix fixe. Souvent, ça dépend de la qualité de cola aussi.
Un autre souci qui s'ajoute aux problèmes déjà existants et qui freine également l'élan des commerçants, c'est la conservation du produit. Kamara Kinamori, qui pratique le métier d'acheteur de cola depuis 25 ans, a connu des hauts et des bas.
Le commerce de cola, là, c'est un coup de chance. Des fois, tu peux payer et puis tout ça, là, ça se gâte. Des fois, tu peux payer et puis tu gagnes, c'est loterie.
Aujourd'hui, il s'est tourné vers la fabrication du panier et la vente de feuilles, deux choses indispensables responsable à la commercialisation de la noix de cola à l'extérieur.
Il y a deux qualités de feuilles. Il y a des feuilles qui sont un peu lâches, qu'on appelle les feuilles achégées. Il y a des feuilles fraîches qu'on trouve en brousse. Quand tu veux mettre dans le panier là, on met feuilles achégées là d'abord. Après, on met feuilles fraîches. Pour ne pas que cola, le vent, le souffle, quand on met ça dedans, c'est fraîche. Mais quand ça va durer là, ça sera sec. Donc, il n'y aura plus de l'eau. Donc, le cola aussi, ça va bien prendre des formes. Même il y a des saletés aussi, ça, bon, ça ne rentre pas. Parce qu'avant de mettre dans ça là, d'abord, on trie. On enlève les mauvais dedans, à côté. On appelle ça le triage. Bon, les bonnes saletés, on met ça ici.
Depuis plus de 10 ans, Moussa Sangaré, lui, travaille comme attacheur de cola chez Kamara. Un travail certes difficile, mais qui nourrit son homme.
Bon, par jour, ça dépend. On peut attacher 100, bien souvent c'est 50 paniers comme ça.
Ça vous fait pas mal au dos après?
Ça fait très mal. Mais comme il n'y a pas de travail, donc on est obligé de se débrouiller comme ça pour subvenir à nos besoins de famille.
Malgré ces nombreuses difficultés, les acteurs de ce secteur vivent bien de leur travail, en tout cas pour ceux qui y mettent du sérieux, comme le soutien Mandé Aboubakar, exportateur, qui a déployé les ailes de son activité jusque dans certains pays de la sous-région.
C'est un métier qui nourrit son homme bien. Ça veut dire que ce métier, si tu le prends au sérieux, tu mets toute ton énergie, bon, ça peut te rapporter. Ça se commercialise entre nous ici, bon, avec la sous-région, Ghana, Nigeria. Bon, ce n'est pas une filière qui est fixée comme cacao et autres par l'État.
Le succès de cette noix attire de plus en plus des jeunes dans la filière. C'est le cas de Konate Abdoulaye, jeune étudiant, qui entre deux cours se transforme en nettoyeur et en porteur de cola. Ce qui lui rapporte entre 5 et 10 000 francs CFA par jour.
En dehors de la cola, je suis étudiant. Comme nous sommes là, je n'ai pas s'asseoir. On essaie d'épauler un peu les parents pour les aider un peu dans les dépenses scolaires. À part ça, je vais à l'école. S'il n'y a pas cours, je suis au magasin. Ce que nous faisons là, c'est contractuel. C'est par rapport au nombre de paniers, au nombre de sacs que nous sommes rémunérés. Quand nous faisons les chargements, quand nous lavons, quand nous déchargeons, ça dépend du type de travail, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de prix fixe en fait.
Environ 30% de la production ivoirienne de cola est exportée vers la sous-région. C'est sans doute là le plus grand potentiel de la filière, car les noix sont d'une grande importance économique dans les échanges entre les pays de forêt et la zone sahélienne. Ce commerce sous-régional est assuré par le négoce traditionnel, sans aucune intervention de l'État, d'où l'appel de Yeo.
70% de la population d'Anyama vit de la cola. Ça veut dire que c'est un secteur pourvoyeur d'emploi. Et donc, nous appelons l'État de Côte d'Ivoire à s'impliquer très rapidement.
Ancrée dans les traditions africaines, la noix de cola est utilisée au cours de nombreuses cérémonies, baptêmes, mariages et divers rites. Si cette filière est bien organisée, elle pourrait rivaliser avec le binôme café-cacao. La consommation de la noix de cola, bien qu'en augmentation, ne concerne pour l'heure que quelques dizaines de millions de personnes à travers la sous-région. Ce qui veut dire qu'il reste encore des marchés très importants à conquérir. Julien Adaïe, de retour d'Anyama pour la Deutsche Welle.
Cobalt, tantal, prométhium, voici quelques exemples de métaux rares présents en très petite quantité sur notre planète mais qui sont devenus indispensables. Le journaliste Guillaume Pitron vient de publier « La guerre des métaux rares », la face cachée de la transition énergétique et numérique. Il y explique que cette révolution en cours est loin d'être propre car elle nécessite des matières premières non renouvelables.
Nous avons en permanence des métaux rares sur nous. Par exemple, du néodyme, le néodyme est un état très rare qu'on utilise pour faire un aimant. Et cet aimant, c'est le vibreur de votre téléphone portable. De même que si vous pouvez envoyer SMS en tapotant sur votre écran tactile, c'est pas cet écran tactile, un oxyde, c'est-à-dire une poudre d'un métal rare qu'on appelle l'indium. Et sans cet indium, eh bien, en fait, vous n'auriez pas de téléphone mobile tactile. Et c'est vrai aussi pour les voitures électriques, c'est vrai pour les éoliennes, les panneaux solaires, et d'une façon générale, pour toutes les nouvelles technologies, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, la robotisation, toutes les technologies du monde d'aujourd'hui et a fortiori demain, sont totalement tributaires de métaux rares. Nous ne pouvons pas nous en passer aujourd'hui, et nous ne pourrons de moins en moins nous en passer dans les décennies qui viennent.
Ce que vous dites dans votre livre, c'est que voilà, ces métaux sont devenus tellement indispensables, mais on a tendance à oublier le coût de ces métaux, notamment humain et environnemental. Et au final, on utilise donc les métaux rares pour ce qu'on appelle des énergies vertes, par exemple, mais ça a un coût environnemental et humain catastrophique dans les pays en développement, dans les pays plus pauvres où ces métaux rares sont présents.
Extraire ces métaux rares, d'arrêter, c'est un coût environnemental extrêmement lourd. Pourquoi que des dizaines de tonnes de vaste roche ne produisent au final qu'une somme infime, quelques grammes de métal rare. Ensuite, pour purifier un métal rare, pour arriver à un métal purifié à 100%, il va falloir utiliser des produits chimiques, des solvants. Et ces produits chimiques, ensuite, il va bien falloir les traiter. On a besoin d'eau, on se charger de produits chimiques pour le traitement. Et dans les pays dans lesquels ces produits, ces terres rares et ces métaux rares sont produits, notamment la Chine, les normes environnementales ne sont pas les mêmes que chez nous en Europe. Il y a beaucoup d'anarchie. Et donc, du coup, on rejette les rebuts et également les toxiques dans la nature. Ils vont contaminer les fleuves, ils vont contaminer les sols. Et pourquoi on ne le sait pas? Parce que dans les années 80, on sait en fait, organiser, partager dans le monde la production de ces métaux rares. Nous, en Occident, nous pouvions extraire ces métaux rares. Nous avons des mines de métaux rares en Occident. Simplement, c'était tellement sale que finalement, nous sommes convenus avec les Chinois, aux alentours du début des années 80, qu'ils récupéreraient tous les emplois de la mine des métaux rares, des mines de métaux rares, qu'ils récupéreraient les infrastructures industrielles et qu'ils récupéreraient avec ça la pollution. Et donc, nous avons délocalisé nos emplois, nos industries, mais aussi délocalisé notre pollution.
Est-ce que du coup, il faudrait que l'on continue à se reposer par la même continue d'avoir des mines de charbon, continue d'exploiter ça. Est-ce qu'il faudrait, voilà, continuer dans le charbon plutôt que fabriquer des éoliennes, par exemple, ou des panneaux solaires?
Non, le retour au charbon, c'est une régression. C'est un modèle énergétique carboné auquel tout le monde aujourd'hui veut tourner le dos. Et je ne dis pas que les énergies vertes ne sont pas la solution. Il faut regarder ces conséquences écologiques en face. Il faut regarder les impacts réels de cette transition énergétique pour pouvoir les corriger. En revanche, puisque je vais dans votre sens, j'insiste sur un point. Aujourd'hui, on développe la voiture électrique. Qu'est-ce que c'est que cette voiture électrique? La voiture électrique, c'est une voiture qui va utiliser une électricité pour être rechargée, pour recharger ses batteries. Et donc, la voiture électrique va être aussi polluante que l'énergie, que l'électricité qui permet de recharger ses batteries. Mais la question va être de savoir d'où vient cette électricité. Si l'électricité de la voiture électrique vient de votre charbon, c'est que c'est en Allemagne, alors votre voiture en Allemagne, ce n'est plus une voiture électrique, c'est une voiture à charbon. Donc vous voyez le paradoxe de cette transition énergétique et aussi ces voitures électriques, dont on vous dit qu'elles sont des voitures vertes propres qui se fondent sur les énergies renouvelables, alors qu'en réalité, pour fonctionner, elles ont besoin de charbon et notamment de lignite. Donc le coût global environnemental de la voiture électrique en Allemagne, compte tenu des choix qui ont été faits par l'Allemagne de lancer la lignite au détriment du nucléaire, va rendre le coût écologique des voitures électriques particulièrement lourd.
Dans votre livre, vous dites que c'est la Chine qui gagne cette guerre des métaux rares.
Oui. En fait, la Chine se retrouve aujourd'hui avec une situation quasi monopolistique sur une ribambelle de métaux rares. C'est-à-dire qu'elle a entre 40, 60, 40% de la production de ces métaux rares, de la production mondiale. Pour certains de ces métaux rares, notamment les terres rares, qui est une classe de métaux rares, elle détient même 80% de la production mondiale. Quel pays qu'on détient monopole sur une ressource stratégique pour les énergies du pays. L'histoire nous prouve qu'il y a qu'un pays qui est en train de chercher à en profiter, a toujours cherché à s'enlever pour faire ses ambitions énergétiques, et c'est ce que fait la Chine. La Chine a pris conscience de cette gigantesque mainmise sur ce qu'on appelle déjà le pétrole du 21e siècle, c'est le nom de métaux rares, et bien en fait, a agencé depuis le début des années 2000 une politique commerciale d'embargo et également de quotas aux exportations de ces métaux rares pour gêner en fait les pays clients tels que nous, les Européens, les Allemands, les Français. Et plutôt que de nous vendre la matière première brute, la Chine dit venez en Chine avec vos industries, donc vos emplois, pour avoir un accès à la matière. Donc la Chine agence une politique dans laquelle elle dit de nouveaux technologies pour vous avoir et vous accès à la matière. De la sorte, la Chine profite de l'attractivité de ce territoire, du fait de l'accès aux métaux rares, pour ensuite, en technologie, faire progresser pour l'innovation, espérer gagner la bataille des énergies vertes, c'est-à-dire la bataille des espoirs et de l'innovation dans ces énergies futures.
La guerre des métaux rares est parue aux éditions Les Liens qui libèrent. Ce magazine est en réécoute sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. Merci pour votre écoute, au revoir et à la semaine prochaine.